in my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Roberta Flack, bien entendu que vous êtes à l'écoute de Roby Ménage, Radio Zone 93.8 et c'est Onde Femme. J'ai eu très peur car ma petite camarade de jeu arrive seulement maintenant. La voilà. Bonjour.
Ça se pousse à la frontière, hein, je suis désolée.
Vraiment.
Vivement 1992.
Alors voilà, tu es là, donc remue-ménage peut commencer. Un remue-ménage de nouveau, plein de choses ce soir. Tout d'abord, nous aurons un entretien avec la comédienne Germaine Tournier.
Oui, parce qu'elle nous montre, elle nous présente un spectacle au théâtre du Grütli, Marianne, qui s'appelle La Vieille Immobile, c'est ça ?
C'est ça, La Vieille Immobile. Donc nous en avons profité pour rencontrer Germaine Tournier. Et toi, par contre, tu es allée promener ton micro vers le palais de justice, je crois.
Oui, je suis allée suivre hier soir le procès, la deuxième audience en fait, du procès qu'une travailleuse de chez Gay Sport licenciée avait intenté à son entreprise à propos de harcèlement sexuel qu'elle avait subi de la part de son chef. Vous verrez d'ailleurs que je l'ai suivi d'une façon pas tout à fait traditionnelle, comme beaucoup des femmes qui étaient venues là pour soutenir Carmen, la travailleuse, hier soir.
Alors encore un petit morceau avec Roberta Flack.
Wait for you. Hey Jesse, it's lonely. Come home, Jesse. The floors and the boards recalling your steps, and all the pictures are fading and shaded in gray, but I still set a place on the table.
Approchez, n'hésitez pas, admirez le gros lot, il est beau. N'y touchez pas, s'il vous plaît. L'un d'entre vous va gagner, le sort va décider. Attention, la roue commence à tourner. vous impatientez pas, attendez votre tour, il viendra. Ça vaut la peine d'essayer. Venez chercher vos billets, ce n'est pas le moment d'arrêter, car la chance va tourner.
C'était Catherine Lara, Jeux de société.
Alors Marianne, tu as donc rencontré Germaine Tournier chez elle, je crois.
Oui, c'est ça, car Germaine Tournier interprète en ce moment La Vieille Immobile au théâtre du Grütli. Et nous, nous avons eu envie de la rencontrer pour parler surtout d'elle, de sa carrière de comédienne et aussi un peu, bien entendu, de la pièce qu'elle interprète actuellement. Alors ce matin, je suis allée entre Vendeuvre et La Capite, plus précisément à Précis, c'est bien ça, dans la merveilleuse maison de Germaine Tournier, car déjà ça, c'est absolument splendide. Germaine Tournier aime rappeler qu'elle est Sévenole, qu'elle est d'origine Sévenole. Et sa maison à Précis, si ce n'est pas une maison Sévenole, car c'est une belle vieille maison genevoise, elle nous rappelle quand même ses bâtisses de là-bas, plus dans le sud, c'est-à-dire une immense maison avec un tas de bois devant. Car il faut le dire que Germaine Tournier a 85 ans, qu'elle habite une très belle maison où elle se chauffe exclusivement au bois. Et elle a un petit radiateur d'appoint, c'est vrai, mais il ne la suit pas partout. Et pour chauffer une si vaste demeure, c'est pas du tout évident. C'est une maison habitée par de merveilleux objets qui ont les sens chargés d'histoire. Il y a aussi des merveilleux escaliers en bois. Bref, c'est toute une atmosphère superbe. Et Germaine Tournier était là pour bavarder, car c'est ça en fait. Je vous livre là notre dialogue ce matin, donc, qui a duré un peu plus d'une demi-heure. Alors le voilà, vous êtes à l'écoute de Remue-Ménage sur Radio Zone 93.8 et vous allez passer un moment en compagnie de Germaine Tournier. Germaine Tournier, aujourd'hui on vous connaît en tant que comédienne, mais avant tout vous étiez musicienne.
J'étais musicienne au début de ma vie, parce qu'on ne joue pas du violoncelle à 4 ans, mais comme adolescente, en effet, j'étais musicienne parce que dans ma famille, on refusait le théâtre. À l'époque, je suis née donc en 1905, au début du siècle, c'était très mal vu pour les jeunes filles dites de bonne famille, dont je crois que j'étais à peu près. Alors évidemment, on m'a dit non, pas de théâtre chez nous, de la musique. Parce que j'aurais toujours voulu faire du théâtre depuis toute petite. J'apprenais des grands textes, j'avais appris la grande tirade de Ruy Blas, « Bon appétit, messieurs ». Ce conseiller, je ne sais plus quoi. Enfin, une grande tirade, et j'étais très fière de cette grande tirade. Et quand enfin ma mère m'a payé tout de même un an ou deux ans chez Madame Chantre au conservatoire, un cours qui s'appelait Déclamation, c'est le contraire du théâtre. Et alors, la première fois que je suis allée à la leçon, on m'a demandé si je voulais dire quelque chose. Il y avait des tas de jeunes gens, moi j'avais 12 ans, des jeunes gens très bien, qui jouaient déjà la comédie, qui avaient 18 à 20 ans. Et j'ai sorti mon « Bon appétit, messieurs ». Tout le monde a rigolé, mais n'empêche que j'étais jusqu'au bout. Alors, c'était assez amusant.
Alors, avant tout, vous avez joué du violoncelle?
Alors, j'ai joué du violoncelle parce que je voulais faire du violoncelle, que mes parents m'avaient destiné au violon, parce que j'étais la deuxième. J'avais une sœur aînée, très gâtée parce qu'elle était l'aînée. Un frère cadet, très gâté parce que c'était le garçon. Je crois que quand je suis née, ils ont été très très déçus que je sois une fille. Et j'ai toujours été assez garçon manqué. Je ne sais pas si c'est pour ça, au fond, peut-être, j'y réfléchis, que je voulais jouer du violoncelle plutôt que du violon. Parce qu'on me disait, la deuxième fait du violon, c'est normal. Et non, j'ai voulu jouer du violoncelle. Et figurez-vous qu'à l'époque, quand j'ai commencé, à 12 ans, 12, 13 ans, je crois, on jouait, les filles jouaient en Amazon. C'est-à-dire le violoncelle posé sur la jambe droite. Comme quand on est en Amazone à cheval, parce que avoir un instrument entre les jambes, mais c'était très choquant, vous comprenez. C'est très curieux. Et j'ai fait toutes mes années de l'orchestrement en Amazone, ce qui était extrêmement fatigant, parce que j'étais obligée d'être assise tout à fait au bord de la chaise, sinon ça basculait. Alors c'était pas très confortable. Après, je me suis mis à jouer avec le violoncelle entre les jambes, comme tout le monde.
Alors, vous avez joué pendant de nombreuses années à l'Orchestre de la Suisse romande?
Pas de nombreuses années, mais 6 ans, c'est déjà pas mal.
Six ans. Et alors, le passage au théâtre s'est fait comment?
Eh bien, comme j'avais toujours envie de faire du théâtre, je me suis mariée avec Johnny Aubert, un grand pianiste dont on va, pas fêter, comment est-ce qu'on dit,
commémorer
le centenaire de sa naissance au début de décembre. Il était né en 88, en décembre 88, et qui m'a dit, mais si tu as tellement envie de faire du théâtre, prends donc un cours. Et c'est lui qui m'a payé mes cours et qui était tout à fait d'accord que je fasse du théâtre. Je ne sais pas s'il trouvait que je jouais très mal du violoncelle, j'en sais rien. Évidemment que je n'étais pas à sa hauteur, alors nous avons donné quelques concerts ensemble, mais très peu, plutôt dans des trucs de bienfaisance. On a joué à l'église de Vendeuvre, entre autres. Et alors on jouait des sonates. Et puis alors, naturellement, à la fête de famille du Nouvel An, il fallait y aller de sa petite sonate.
C'était le concert voilà. Du Nouvel An.
Oui, de Noël plutôt.
Et comment s'est passé, vous avez une formation de musicienne, alors comment cela vous influence-t-il dans votre jeu théâtral maintenant?
Je ne sais pas si ça m'influence dans le jeu théâtral, mais ça m'a certainement beaucoup servi pour les innombrables poèmes que j'ai dit, parce qu'à la radio, j'étais un peu spécialisée dans les poèmes. J'avais une émission poétique une fois par mois, pendant des années, pendant la dernière qui s'appelait Le Havre fugitif, pendant une quinzaine d'années. Oui, en tout cas 15 ans, si ce n'est pas plus. Et tout au début, j'avais une autre émission qui s'appelait La Lyre des jeunes. Et c'est tous les jeunes poètes qui m'envoyaient leurs premières plaquettes, éditées ou même pas éditées. Et alors, c'était très intéressant. Et alors, je pense que d'avoir fait beaucoup de musique, ça doit aider pour la poésie.
Pour le rythme?
Le rythme, la musique des mots et tout. Et puis, un certain goût quand même des sonorités, sûrement. Parce que ça développe l'oreille, surtout un violoncelle ou un violon. Parce que j'avais un camarade qui me disait, qui était violoniste, avec qui j'ai fait énormément de quatuors à cordes, parce que pendant mes études de violoncelle, je faisais énormément de quatuors à cordes. C'était ce qui nous plaisait le plus. On était quatre copains. Et vraiment, c'est une formation merveilleuse. Et il me disait, une note juste sur le violoncelle, c'est un pur hasard. Alors, je disais, ben, merci bien, tu trouves aussi faux que ça.
Et quelle est la musique que vous écoutez le plus volontiers?
J'écoute énormément maintenant le piano. Or, à la mort de mon mari, en 54, je ne pouvais plus entendre les choses qu'il avait travaillées. Ça me mettait dans un état d'énervement. D'abord, j'ai jamais retrouvé la manière dont il jouait certaines pièces, par exemple le carnaval de Schumann. Personne ne le joue comme lui, personne. Il avait un sens de l'enchaînement les différentes parties, un espèce de sens de l'équilibre qui était absolument admirable. C'était superbe.
Et c'est plutôt les pièces romantiques.
C'est plutôt le romantisme, oui. Et puis le classique quand même. Bach, j'aime énormément Bach. Beethoven, bien sûr, en fait, il compte comme classique. Non, comme romantique, Beethoven. Alors, c'est le début du romantisme. Bach, Beethoven, et puis alors la musique française, Debussy, Ravel, j'aime énormément Pélas et Mélisande. Mais plus loin, par exemple, la musique concrète actuelle, pour moi, c'est quand même assez lettre morte. Là, je dois dire que quelquefois j'entends des choses à la radio, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut écouter ça? Et puis alors, ce dont j'ai horreur, c'est les chansons gnangnan qu'on entend toute la journée. Alors ça, je supporte pas. Les filles qui disent, puis qui croient qu'elles chantent. Ça m'horripile.
Alors nous n'avons malheureusement pas de disque de Johnny Aubert. Du reste, il n'existe qu'un disque de ce pianiste. Alors nous avons choisi un autre pianiste, c'est Alvin Baer. C'est un pianiste hollandais qui interprète un mouvement de la fantaisie opus 17 de Schumann. Vous écoutez Romu Ménage sur Radio Zone 93.8. C'était Alvin Baer au piano. Vous êtes à l'écoute de Romu Ménage, Radio Zone 93.8. Nous sommes en compagnie de Germaine Tournier, comédienne.
Quand on décide, comme vous, c'était dans les années, fin des années 30, de devenir comédienne, est-ce que pour une femme, c'était bien accepté dans la société?
Oh, ça commençait quand même dans les années 30. Ça dépendait des familles. Ma mère était calviniste, alors évidemment, elle n'a pas du tout aimé que je tourne de la musique au théâtre. Ça, elle n'a pas du tout aimé. Je me rappelle qu'elle est venue, parce qu'ils habitaient toute la France, et moi je suis restée seule à Genève. Et elle est venue à un spectacle au Grand Théâtre que j'avais monté. Et mon professeur, c'était Carmen da Silva, une merveilleuse actrice, que j'ai beaucoup aimée, qui est d'ailleurs morte chez nous, finalement. Et alors, elle a assisté à une pièce, et en sortant, elle a dit « Comment est-ce que tu peux dire « maman » à cette femme exactement comme à moi ?» Alors, j'ai dit ben, « C'est ça, la comédienne ?» Et alors ça la mettait au champ, ma mère. Ouais, ça, elle n'aimait pas le théâtre.
Vous vous souvenez du tout début de vos premières représentations ?
Oh oui, ce que j'ai le plus aimé, c'était à Mézières. À Mézières, c'était en 35. Tell, vous jouez la femme de Tell avec un acteur que j'ai bien aimé qui s'appelait Harry Krimer, qui était un très bon acteur. Et alors j'ai eu un plaisir fou. Et puis le théâtre de Mézières, vraiment, qui ne connaît pas le théâtre du Jorat a tort, parce qu'il faut vraiment aller voir ce théâtre. Rien que le cadre de scène est tellement beau, c'est extraordinaire. Et puis alors l'acoustique est extraordinaire. On est là, j'avais une scène où j'étais toute seule sur le plateau. cet immense plateau devant cette salle. J'avais un monologue là toute seule. C'était à la fois impressionnant et merveilleux à faire. Alors, c'était superbe, ça.
Mais beaucoup de comédiennes et comédiens rêvent d'aller à Paris. Et vous êtes allée à Paris?
Mais je suis allée à Paris un petit peu par hasard. C'est parce que j'ai fait partie d'un spectacle qui s'est monté ici, qui s'appelait Notre Petite Ville, avec un garçon qui s'appelait, le metteur en scène s'appelait Maritz, qui avait des accointances avec Paris. Des gens de Paris sont venus voir ce spectacle. Nous avons joué 2 semaines à Genève et on nous a engagés pour 1 mois à Paris, au Vieux Colombier. Et puis ça a tellement bien marché, après que nous ayons pu jouer, car on a eu des difficultés pour les droits d'auteur, après que nous ayons commencé, on a joué 1 année et on aurait pu jouer encore très longtemps. Parce que ça avait un succès fou, cette petite ville. Je pense qu'une pièce arrive au bon moment. C'était en 1946 et les gens avaient besoin de cette espèce de naïveté, de simplicité qu'il y a dans cette pièce et pas de choses brutales. Je pense que c'est pour ça que ça avait un énorme succès.
Et puis alors le voyage à Paris, c'était en quelle année, vous m'avez dit?
En 1946.
En 1946. Comment cela s'est passé?
Alors, évidemment que toute la troupe est partie, donc... Un soir plutôt, on voyageait de nuit quand on allait à Paris, puis c'était pas le TGV, c'était plutôt long, et puis on voyageait en 3e classe à l'époque, évidemment. Alors on avait tous nos bagages, une malle et tout ça, parce qu'on partait pour 1 mois, évidemment, on n'avait pas tellement de choses, mais on avait quand même un petit bagage. Et alors à Bellegarde, naturellement, il fallait tout descendre, ça a duré des heures à Bellegarde pour qu'on regarde tout ça, c'était une véritable expédition, c'était assez drôle. Puis alors, arrivé à Paris, on avait retenu dans un hôtel, un hôtel qui s'appelait l'hôtel Sainte-Marie, joli, hein, et à la rue du Four. Alors on se disait rue du Four, pas rue du Four comme le général, rue du Four. Ça positif pour la pièce, c'est pas très heureux. Et puis vous voyez que la pièce a quand même très très bien marché. Et les gens de cet hôtel ont été merveilleux parce qu'on n'a pas pu jouer tout de suite à cause de cette question des droits d'auteur. Et le patron de l'hôtel nous a gardé, enfin ceux qui sont restés, nous a gardé gratuitement en disant oui, vous verrez, on jouera. Nous, alors il disait le matin, je crois que nous jouerons bientôt. Parce qu'on faisait des démarches. Il était merveilleux ce patron de l'hôtel. Et le garçon s'appelait Charlemagne, je me rappelle. Charlemagne.
Et alors, vous n'avez pas pu jouer, vous êtes resté vous à Paris avec quelques personnes?
Alors, moi je suis restée à Paris, on était 4 ou 5, ou même pas, on était 3 ou 4. Il y avait une femme qui avait de l'argent, alors elle se débrouillait pas mal. Mais on était 3 vraiment un peu sur la paille, quoi. On a même été reçus chez des gens, c'était la troupe suisse qui est sur le trottoir à Paris. Enfin, on a été reçus chez des bons bourgeois, c'était insupportable d'ailleurs d'aller manger chez ces gens.
Parce que sinon, pour manger...
Eh bien, on avait une baguette de pain pour la journée. Ouais. Alors, quand les autres sont revenus, qu'on a eu enfin les droits, nous étions tous amaigris, affaiblis, on était tout malheureux. Et puis, parce que c'est tellement bien parti, la pièce, ça a été vite oublié, ça.
Vous l'avez joué pendant 1 année.
1 année.
Est-ce que lorsqu'on joue tous les soirs, quasiment pendant 1 année, on arrive encore à sentir des émotions par rapport au texte que l'on dit?
Mais certainement. Et les émotions, on n'a pas besoin de les chercher, elles viennent toutes seules. Il y a une espèce de routine qui se fait. Mais ce n'est pas qu'on est absent de ce qu'on dit, pas du tout. Au contraire, on entre tellement facilement dans son rôle que c'est vraiment très très agréable. Moi, j'aurais joué ça encore très longtemps. Évidemment, si c'est un rôle qu'on n'aime pas, ça doit être très pénible, ou c'est une panne sans intérêt. Mais quand on a un rôle intéressant, moi, je ne sais pas, on jouerait ça très très longtemps. Comme ma vieille immobile que je joue en ce moment. J'aimerais bien la jouer assez longtemps. Je la joue 10 fois maintenant. On l'a jouée une douzaine de fois, une première fois. Mais je la jouerai volontiers encore, ça c'est sûr.
On parlera un peu plus tard de cette vieille immobile, justement. Et à Paris, alors après, vous n'avez pas continué?
Eh bien alors, j'aurais pu. Parce que, étant née française, j'ai eu très facilement ma carte de travail. Alors que les autres n'arrivaient pas à l'avoir. Donc j'avais cette carte de travail et j'avais pas d'obstacle. Mais alors il faut faire des démarches, il faut aller voir les gens, il faut téléphoner, il faut dire vous savez, je suis très bien. Et alors, j'avais tous les atouts et puis je les ai. Ça, j'ai raté ça. Parce que j'avais en même temps 2 films qui passaient, La Dernière Chance et Marie-Louise, la petite française, qui passaient aux Champs-Élysées, qui ont eu un succès fou aussi en 1946. Donc. J'étais sur un plateau magnifique. Et puis, j'ai fait quelques démarches dans des choses de cinéma. Et puis, quand j'ai vu tous ces gens assis sur des canapés qui attendent, toutes ces femmes qui vous regardent des pieds à la tête, qu'est-ce que c'est de nouvelle ? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici ? Comment une Suisse ? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici ? Et alors, ça m'a beaucoup découragée. Et je suis rentrée à Genève. Mais ça a été très dur de me réadapter à Genève. Tant que je revenais, parce que je suis revenue une ou deux fois, on a eu quelques week-ends où on a pu revenir, et qu'on sait qu'on repart. Oui, puis on a eu quand même un mois de vacances pendant cette année. Quand on sait qu'on retourne à Paris, c'est pas difficile. Mais quand on sait qu'on n'y retournera pas, c'est très difficile de se réadapter. C'est pour ça que les gens... Moi, quand je vois des camarades qui font une partie de carrière à Paris, puis qui reviennent après ici, je ne sais pas comment ils ressentent ça, mais moi, j'ai trouvé que c'était difficile. Maintenant, je sais bien que la vie à Paris, actuellement, est beaucoup plus difficile qu'à l'époque. En 46, ce qu'il y avait de difficile, c'était pour se nourrir, parce qu'on avait des cartes, les coupons, il y avait pour aller au restaurant, il fallait genre ces coupons, pour donner ces coupons de viande, de graisse, de café, de je sais pas quoi, enfin, on découpait les cartes, là. Mais ça, c'était difficile, enfin, on s'en est quand même très bien tiré. Mais maintenant, je trouve que, là, je sais pas, moi, j'ai plus tellement envie d'aller à Paris. Ça me fait un peu peur. Prendre le métro à 2h du matin, ça ne me dirait pas grand-chose. Alors que je rentrais volontiers dans n'importe quel quartier à 2 ou 3h du matin à pied, ça ne faisait rien du tout. Je n'avais pas du tout peur.
Et de retour à Genève ?
Alors de retour à Genève, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben j'ai repris un petit peu. Bon. J'ai quand même joué à la comédie, à l'ancien théâtre de poche, enfin dans tout ce qui se faisait. Ici, et beaucoup dans les troupes marginales. Il y a eu la compagnie des 5, il y a eu la compagnie des 7. Et puis alors, c'était avant 46, 39, c'était avant 46, oui. là, c'était avant de partir qu'on avait monté avec Pierre Valde une compagnie qui s'appelait le Théâtre du Temps. Et alors, en rentrant, eh bien, j'avais en tout cas deux fois par année un spectacle à monter au Grand Théâtre pour les spectacles populaires de la ville. Et je faisais la mise en scène, je choisissais la pièce, je faisais la mise en scène, j'engageais des camarades, et je faisais ça, et ça m'occupait quand même passablement, parce qu'une pièce, ça ne se monte pas si facilement. Et puis c'était très difficile, parce que comme je prenais toujours des camarades professionnels, ils étaient tous pris à droite et à gauche, alors pour établir les répétitions, être libre tel jour et pas tel jour, c'était un casse-tête, ça. Pas difficile. Mais enfin, ça me prenait du temps. Et puis, j'ai fait beaucoup de radio.
Vous avez un bon souvenir de la comédie de Genève ?
Oui et non. Oui, pour certaines pièces. Et puis, mais je m'y suis jamais vraiment intégrée. Non. Et avec les camarades, non. Je dois dire que... Non, j'ai toujours gardé très bons camarades avec tout le monde. D'ailleurs, ils venaient dans mes populaires. Mais avec différents directeurs, ça n'allait pas tout seul.
Non. Il n'aimait pas votre jeu.
Je sais pas s'il aimait pas mon jeu, mais il me distribuait pas. Là, il aurait fallu. Moi, j'aime toujours jouer les paysannes, les gens simples, tout ça. Et puis on me distribuait toujours des mondaines, parce que on savait que j'étais une certaine bourgeoisie. Et alors on me distribuait des mondaines, mais c'est stupide, et perfide par-dessus le marché, il faut bien que je le dise. Et alors j'avais horreur de jouer une bourgeoise perfide. Et puis c'était ce qu'on me donnait, alors j'étais très mauvaise, très très mauvaise. Alors évidemment ça ne les incitait pas tellement à m'engager, puisqu'ils ne me donnaient pas ce que je pouvais jouer. Vous voyez, donc cette première chose que j'ai jouée, ça a vraiment bien marché. Ce tel de Morax, aux Auras, c'est une paysanne. Et il y a cette espèce de choses directes et simples, ça me va.
Thank you.
Nous écoutions un extrait du concerto en la mineur, opus 129 de Robert Schumann, avec au violoncelle Paul Tortelier. Car nous sommes en compagnie d'une comédienne qui avant tout était une musicienne, une violoncelliste précisément. C'est Germaine Tournier. Nous continuons donc notre entretien avec elle.
Vous avez aussi énormément enseigné. Qu'est-ce qui vous stimulait le plus dans votre pédagogie ?
Les élèves qui travaillaient, d'abord. Évidemment, ceux qui avaient certaines facilités. Mais il y en avait qui avaient des facilités puis qui ne fichaient rien. C'était très énervant, ça. Mais j'ai eu des bons élèves. Non, ce qui était difficile, c'était sur la longueur, parce qu'il y avait énormément d'élèves. Il y avait des moments où, je ne sais pas, j'avais 50, 60 élèves, là. Alors, assumer tout ça, c'est dur, hein. Et puis, ce qui a été très dur, c'est aussi que l'orientation. Alors là, c'était très dur, je trouve. Faire la discipline dans une classe de 20 gosses, ça, c'est dur. Mais puis, j'étais trop jeune. Non, j'aimais bien les gens entre 17 et 25 ans. Ça, j'aimais bien. Et puis, j'aimais bien des gens qui n'avaient jamais rien fait avant. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont, dans ces cours-là, parce que où j'étais au Conservatoire populaire, c'est pas des gens qui sont destinés à faire une carrière. En tout cas, il faut qu'ils aient d'autres moyens de subsistance, parce que c'est pas des fils à papa ou des fils à maman, ou des filles à maman. Donc il faut qu'ils aient de l'argent. Donc c'est des gens très simples, mais qui font carrière à côté. Alors, c'est je trouve intéressant et bon pour eux, parce que alors ça les change de leur travail. Des gens qui sont dans un bureau toute la journée, ou qui font un travail qu'ils n'aiment pas, alors ça leur apprend à lire des textes et à comprendre des textes qui, sans ça, ils ne liraient jamais, et à s'y intéresser. Arriver à intéresser des gens qui n'ont vraiment peu de culture, à Marivaux, à Racine et Corneille même. Et naturellement, on commençait toujours par La Fontaine, où je voyais des grandes grimaces. Oh, une femme La Fontaine, oh. Et puis après, ils aimaient bien, parce que justement, quand ils découvraient la beauté des textes, et puis la vie de ces textes, la vie extraordinaire, c'est des petites comédies. Chaque fable est une petite comédie. Alors c'était toujours le... Je disais toujours que c'était le pinsum du début. chaque année, en recommençant en septembre, tout le monde passer avec sa fable. À ça, j'étais inflexible.
Et qu'est-ce que vous vouliez développer le plus chez ces acteurs ?
L'imagination, surtout l'imagination, de ne pas rester accroché à son petit boulot, justement, et de voir plus grand, de voir d'autres choses. Et puis aux beautés des textes, aux beautés de ce qu'il y a dans les textes, du Claudel, faire travailler un Claudel à quelqu'un qui est assez inculte, il faut y arriver quand même. Alors, je m'en commençais plus doucement, mais ils arrivaient parfaitement à aimer beaucoup ces choses.
Et maintenant, vous travaillez beaucoup avec de jeunes comédiens ou comédiennes. Quelle différence vous voyez dans leur manière à eux d'appréhender un texte et le vôtre ?
Ils sont d'un côté beaucoup plus compliqués, beaucoup plus se creusant les méninges, que nous qui cherchions simplement à comprendre ce que voulait l'auteur, à entrer dans la personnalité du personnage à interpréter. Alors eux, il faut scénographie, il faut... quel est l'autre mot ? Il y a un scénographe et un...
Un régisseur ?
Oh non, oh là là, il y a plus important que ça. Un dramaturge. Alors dramaturgie, scénographie... Tout ça, alors, ce que je n'aime pas, j'aime bien travailler avec eux une fois que tout est débrouillé, mais ce que je n'aime pas, c'est ce qu'on appelle le travail à la table. Alors, on est autour de la table pendant 2 semaines, à lire les textes et à se donner des explications qui vont jusque je ne sais pas où, pour savoir un tas de trucs. Après, c'est tout simple, c'est exactement comme on avait travaillé avant. Je trouve qu'on n'a pas besoin de tout ça. Mais enfin, ils aiment ça, alors pourquoi pas ?
C'est une différence d'apprentissage ?
Oui, c'est maintenant... Tout le monde a son scénographe, son dramaturge et son décorateur. Alors qu'autrefois, quand nous avons monté des choses avec Pierre Val, lui, il faisait non seulement la scénographie, la dramaturgie, certainement, et les décors, il faisait d'abord une maquette lui-même, ensuite il les réalisait lui-même, et d'ailleurs, c'était comme... L'admiration que j'ai eue énorme pour Georges Pitoëff. Georges Pitoëff dessinait toujours ses décors lui-même. Moi, je l'ai bien connu quand j'avais 12-13 ans. Je l'ai connu comme ça parce que la famille le connaissait. Et j'allais très souvent chez lui pour jouer un peu avec ses enfants. Et je le voyais avec du bleu et du rouge sur la figure parce qu'il était en train de manier ses crayons de couleur pour faire ses décors. Il faisait tout lui-même. C'était magnifique, Pitoëff. Magnifique. Oh, quel acteur extraordinaire. Quel animateur extraordinaire. C'était. Alors, il est revenu à Genève à la guerre. Et malheureusement, il est mort très vite. Ben, ça, je suis sûre que j'aurais joué avec lui. J'aurais joué chez lui. J'ai joué avec sa femme après, quand elle a monté des choses. J'ai joué l'échange de Claudel avec elle. Alors, qui était aussi une actrice merveilleuse. Mais en fait, ce n'était pas cette personnalité tellement attachante de Pitoëff qui était un type merveilleux. C'était peut-être lui qui m'a fait beaucoup aimer le théâtre et désirer le théâtre. Parce qu'alors, tout de même, comme mes parents, ma mère le connaissaient, nous avons été beaucoup à ces spectacles. Évidemment, on m'en a interdit quelques-uns. J'avais quoi, 12 ans.
Lesquels on vous a interdit?
Salomé, ça je me rappelle très bien. Salomé, je ne sais pas quel autre. Mais par exemple, Hamlet, je l'ai vu, je ne sais pas, 6 ou 7 fois. Ah, c'était fou. Et puis alors, j'allais dans la loge à l'entracte, puis après, c'était formidable.
Et puis, vous avez fait également du cinéma.
Alors oui, ça, j'ai fait du cinéma avec un merveilleux metteur en scène qui s'appelait Léopold Lindbergh, qui est mort il y a un an et demi, pas très longtemps. Nous avons été d'ailleurs en rapport épistolier jusqu'à la fin de sa vie, à peu près. C'était un très merveilleux metteur en scène et qui a surtout fait cette dernière chance dont je parlais tout à l'heure, qui est un film qui a été partout, partout, partout. C'était donc une histoire de gens qui se trouvaient en Italie, mélangés. Il y avait toutes les nationalités. Il y avait des soldats américains et anglais. Il y avait un Tchèque et sa petite fille. Il y avait une Allemande et son fils. Il y avait une Française qui était moi. Il y avait... Et chacun parlait sa langue. Et c'est la première fois qu'on a fait le mélange des langues. Alors c'était assez extraordinaire. Et ce qui a été très extraordinaire, c'était une des scènes où on était dans la montagne, là, on traversait des hauts plateaux enneigés, c'était assez dur d'ailleurs, physiquement c'était assez dur. Et on se trouvait dans une cabane et tout le monde a chanté Frère Jacques dans toutes les langues. Alors ça, c'était très beau ça, je trouve. Toutes les langues chantent Frère Jacques. Nanana, on chantait en canon, hein. Chacun après son tour. C'était très beau. Il y avait cette grande actrice allemande qui s'appelait Teresa Giese, qui était comme Lindbergh, une juive réfugiée à Zurich qui a fini par être suisse. Lindbergh était viennois, Giese aussi, et plusieurs acteurs étaient viennois. Et ils ont fini par avoir la nationalité suisse à Zurich. Ils faisaient partie du Schauspielhaus.
Et vous avez tourné au cinéma assez dernièrement. Vous avez vu aussi de grandes différences, alors maintenant, dans la manière de tourner un film?
Non. Au fond, l'interprétation reste pareille. Mais évidemment, je pense qu'ils ont des moyens beaucoup plus sophistiqués, des caméras plus au point, etc. Mais il faut reconnaître que La Dernière Chance, que j'ai revue il n'y a pas très longtemps, tient parfaitement le coup. D'ailleurs, vous savez qu'on passe souvent des films de René Clair ou des choses comme ça, et finalement, ils sont très beaux. Hein. Si c'est des beaux films, ça reste très beau.
Maintenant, alors, on va se tourner du côté du théâtre, puisque vous jouez en ce moment au Grütli, un poème dramatique écrit par Gérald de Chevrolet, La vieille immobile. Vous êtes le seul personnage de ce poème. Alors, comment vous avez abordé ce texte?
Eh bien, comme je connais bien Gérald Chevrolet, avec lequel j'ai déjà fait 3 pièces, il a eu l'idée de mettre en pièce ce poème, de mettre en pièce, mettre en poème dramatique, disons, l'histoire de sa grand-mère, l'histoire de la mort de sa grand-mère. Quand sa grand-mère allait mourir, sa mère lui a téléphoné parce qu'ils habitaient le Jura. Ils sont jurassiens et Gérald était à Genève. Elle lui a téléphoné, comment est-ce que la grand-mère ne va plus du tout. Il faut que tu viennes. Alors, il a pris le train en vitesse, et dans le train, il était très ému, dans le train, il a pris des notes. Et cette grand-mère était très spéciale, parce qu'elle pesait 120 kilos, elle ne bougeait plus du tout, et elle ne parlait pas. Alors, il imagine le dialogue qu'il aurait pu avoir avec elle si elle avait parlé. Au fond, les choses qu'elle a ressenties dans une vie très, très difficile, et alors c'est ça qui me fait dire. Alors, il y a d'abord, ça commence par la mort, et puis après, alors, il y a tout ce qu'elle aurait pu dire, tout ce qu'elle aurait pu expliquer à son petit-fils sur sa vie difficile. Parce que, naturellement, elle a été mariée, comme on faisait à l'époque. Ma grand-mère, à moi aussi, a été mariée comme ça, avec un homme qu'elle n'aimait pas.
Qu'elle ne connaissait pas, du reste, avant.
Non, qu'elle ne connaissait pas. Non, qu'elle ne connaissait pas. Et ma grand-mère a aussi été mariée comme ça. Ma grand-mère était une Parisienne très vive, comme ça. Et voilà qu'on l'a mariée à un savant extrêmement... Mon grand-père, oh là là, quelle horreur, il était sévère.